Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour. À Malte, près de 4 ans après la mort de Daphne Caruana Galizia, tuée dans l'explosion criminelle de sa voiture, les poursuites pénales sont toujours en cours. Et la famille de la blogueuse poursuit la lutte pour la vérité, notamment à travers une fondation qui porte son nom et dont la mission va plus loin que le cas de Daphne Caruana Galizia. En dénonçant le harcèlement judiciaire et les condamnations abusives qui visent des journalistes ou des médias, la fondation lutte pour préserver tout simplement la liberté de la presse. À Malte, Juliette Rangeval.
En face du palais de justice de La Valette, le mémorial pour Daphne Caruana Galizia est toujours là. Des bougies, une photo, des mots d'anonymes. Presque 4 ans après le meurtre de la blogueuse maltaise qui dénonçait les petits secrets des puissants de l'île et les scandales de corruption, la plaie n'est pas refermée, la justice n'a pas encore été rendue. Mais ce n'est pas tout. Les héritiers de Daphne Caruana Galizia doivent encore se débattre avec une série de procédures judiciaires qui avaient été lancées contre leur mère et qui se poursuivent aujourd'hui. Des procédures abusives, une forme de harcèlement qu'explique Corinne Vella, la sœur de Daphne, qui consacre aujourd'hui l'essentiel de son temps à la fondation Daphne Caruana Galizia.
Les poursuites engagées contre ma sœur ont continué après son meurtre. Il y avait 47 dossiers. 5 au pénal et l'action s'est donc éteinte automatiquement après sa mort. Mais les poursuites civiles continuent. Elles ont été engagées par beaucoup de gens au pouvoir, dont le Premier ministre et sa femme, ses ministres, son chef de cabinet, le ministre de l'économie, un donateur du parti au pouvoir qui a déposé 19 plaintes. Toutes ces plaintes visent désormais mes neveux et le mari de ma sœur qui sont ses héritiers. Ils ont dû continuer à se battre, c'est vraiment devenu une guerre d'usure. Tout doucement, le nombre de dossiers a diminué grâce au soutien des ONG qui les ont soutenus, financièrement notamment dans ces dossiers, mais aussi grâce à la pression internationale qui s'est exercée.
À la mort de sa sœur, Corinne Vella s'est aperçue de l'ampleur du phénomène.
C'est véritablement une situation perverse. Les plaignants peuvent utiliser la loi de manière complètement légale pour faire taire ceux qui les critiquent, avec des conséquences très graves pour le droit à l'information, la libre circulation de l'information et la possibilité de se forger une opinion, tout ce qui caractérise une démocratie. C'est un problème à travers toute l'Europe, en particulier parce qu'avec ces plaintes abusives, les gens se sentent isolés, ils n'en parlent pas, n'évoquent pas le sujet, ce qui rend ces techniques si efficaces.
Manuel Delia est blogueur, lui aussi, comme Daphne Caruana Galizia, lui aussi a connu les intimidations, la peur du procès, d'avoir à payer un avocat, des frais de justice, le temps perdu. Tout cela a pu le faire taire un moment, mais désormais, il parle.
Je suis victime d'une plainte abusive. Je suis poursuivi parce que j'ai écrit un commentaire sur mon blog où je m'excusais d'avoir retiré une histoire parce qu'on a menacé d'engager des poursuites contre moi. Il y avait une banque, ici à Malte, qui appartenait à un citoyen bulgare. Et j'ai écrit qu'il avait fait l'objet d'une enquête pour malversation. Il a embauché des avocats qui ont dit que je serais poursuivi au Royaume-Uni pour plusieurs millions. L'un de ses avocats qui travaillait pour lui a voulu se montrer amical et m'a dit « Ce n'est pas seulement que tu risques la ruine, c'est qu'à un moment tu te jetteras par la fenêtre à cause de toute cette affaire. » À l'époque, ce n'était pas l'histoire la plus importante sur laquelle je travaillais. Et j'avais peur, alors je l'ai retiré de mon site. Le résultat de tout cela, c'est que quand ce banquier a finalement été arrêté par les autorités, beaucoup de personnes qui étaient dans cette banque ont vu leurs avoirs gelés. On avait bloqué leurs salaires, des magasins ont dû fermer. J'ai dû présenter des excuses à mes lecteurs. Si je n'avais pas retiré cette histoire, si j'avais fait mon travail, si je leur avais donné des informations sur les problèmes financiers qui existaient dans leur banque, ils auraient pu s'organiser. À la place, ils ont été piégés. Et maintenant, parce que je me suis excusé auprès d'eux, je suis poursuivi en Bulgarie. La technique, c'est de blâmer le journaliste, de lui faire peur pour qu'il arrête ses recherches. Ce banquier, il est toujours en activité, il fait des affaires et il a bien l'intention de s'en sortir. Il ne veut pas que son nom et mes articles apparaissent quand on recherche son nom sur Internet. Cette plainte abusive, c'est pour me faire taire.
Le Centre européen pour la liberté de la presse et des médias, qui est basé en Allemagne, suit ces questions de près. Floutoura Kousseff Moussari est juriste. Elle fait campagne pour la mise en place d'une législation au niveau européen pour mettre un frein aux plaintes abusives.
Plusieurs organisations ont enregistré des plaintes abusives. Il y en a en Pologne, c'est sûr. Par exemple, il y a plus d'une centaine de plaintes et d'actions judiciaires contre Gazeta Wyborcza. La Hongrie aussi, c'est certain, le Royaume-Uni. Mais il y en a aussi à Malte, en Slovénie, en Slovaquie, etc. Il n'y a aucune recherche qui aurait documenté chaque cas dans chaque pays, parce que ça demande beaucoup de temps et des ressources financières. Mais nous savons que les cas existent. Nous avons déjà des exemples et nous demandons désormais aux institutions européennes de s'engager sur ce dossier. Une partie de cet engagement doit consister à mener une enquête approfondie. Ils ont les moyens, ils ont les ressources. C'est à eux de jouer.
Pour la juriste, une législation efficace s'articulerait autour de 4 points.
Il faut prendre en compte plusieurs éléments. Le premier et le plus important serait de permettre aux tribunaux de rejeter rapidement les plaintes abusives. Ce serait un garde-fou de procédures importantes. Deuxièmement, une législation devrait comprendre des règles pour assurer une juste attribution des frais. Troisièmement, il devrait y avoir des pénalités dissuasives. Et enfin, il devrait y avoir un système de provision pour l'assistance, le soutien et la protection des cibles de ces plaintes abusives. Voilà les grandes lignes que devrait comprendre une directive européenne contre les plaintes abusives ou une recommandation du Conseil de l'Europe sur la question.
Dans son rapport pour l'année 2020, la plateforme sur la presse du Conseil de l'Europe s'inquiète du nombre record d'agressions physiques, de faits de harcèlement et d'intimidation envers les journalistes à travers toute l'Europe. Elles ont doublé en 5 ans.
Des accusations jugées abusives contre des journalistes sont également dénoncées à Chypre, en République turque autoproclamée de Chypre Nord. 3 journalistes de Presse écrite risquent 6 ans de prison à la suite d'articles qui ont révélé une affaire de vente illégale de passeports à des fins politiques. Leur procès s'est ouvert début juin et il fait craindre un important recul pour la liberté de la presse. On en parle avec l'un de nos correspondants dans la région, Joël Bronner. Joël, dites-nous pour quel motif exactement ces journalistes sont poursuivis.
Les 3 journalistes du quotidien chypriote turc, Yeni Bakish, qui comparaissent libres, sont officiellement poursuivis au motif de la violation du secret de la vie privée. En cause, la diffusion de l'enregistrement que vous entendez. La personne qui s'exprime, et qui est par ailleurs elle aussi poursuivie en justice à l'heure actuelle, est une fonctionnaire du ministère de l'Intérieur chypriote turc. Elle explique à son interlocuteur que la Turquie voisine a demandé à la partie nord de l'île d'octroyer 50 000 passeports locaux à des citoyens turcs, et ce afin de renforcer la base électorale de l'UBP, le Parti d'Unité Nationale, une formation nationaliste et conservatrice soutenue par Ankara et qui appartient actuellement à la coalition au pouvoir. La fonctionnaire impliquée tirait par ailleurs un revenu illicite de la vente de ses passeports.
En révélant cette affaire de corruption, les journalistes ont donc fait leur travail, tout simplement. C'est d'ailleurs ce que défend l'organisation Reporters sans frontières.
RSF s'émeut aussi, par ailleurs, de ce que ces journalistes, pendant leur garde à vue, se sont notamment vus confisquer leur téléphone. Une atteinte possible au secret des sources que le représentant de RSF définit comme le principe constitutif de la liberté de la presse.
Alors justement, quelle est, Joël, la situation de la liberté de la presse aujourd'hui dans cette partie nord de Chypre ?
À en croire Esra Aygin, une journaliste expérimentée que j'ai contactée et qui collabore à la fois avec des médias chypriotes grecs et chypriotes turcs, la liberté de la presse dans le nord de l'île paraît véritablement menacée. La Turquie semble en effet renforcer son emprise sur le nord de Chypre, en particulier depuis l'accession au poste de président l'an dernier d'Ersin Tatar, un homme politique très proche d'Ankara. L'ancienne journaliste d'AP et de Bloomberg décrit ainsi des conditions de travail de plus en plus difficiles. Il y a 2 mois, une critique sur les réseaux sociaux du président chypriote turc lui a ainsi valu toute une série de menaces de mort en ligne, des messages qu'elle identifie comme provenant majoritairement de Turquie. Ankara n'hésite plus par ailleurs à intenter, en Turquie et en leur absence, des procès à des journalistes chypriotes turcs lorsque certains articles déplaisent au pouvoir. 2 d'entre eux sont ainsi poursuivis depuis 2018. La crainte est qu'à l'avenir, des extraditions de journalistes vers la Turquie soient possibles. Une situation qui marquerait pour Esra Aygin la fin des médias libres dans le nord de Chypre.
Merci Joël Bronner.
Actions are drastic. I pick up the plastic right now. Let's get drastic. I want the plastic.
La fin du plastique à usage unique, ça y est, une bonne nouvelle pour la planète et pour notre santé. Ces plastiques qui polluent les plages et les océans sont définitivement interdits dans tous les pays de l'Union européenne à partir du 3 juillet. Mais en Italie, le gouvernement désapprouve. En effet, les bioplastiques issus de matières végétales ou animales sont aussi concernés par cette interdiction, aux grandes dames des industriels du secteur. Reportage à Milan, Frédéric Lebel.
Dans la capitale de la Lombardie industrielle, c'est un endroit à part. Une ancienne ferme du XVIIe siècle, en plein cœur de Milan, restaurée pour abriter des associations engagées dans des projets sociaux et écologiques. Donatella Pavane, à la tête de l'ONG Gisement Urbain, milite depuis des années pour la fin du plastique à usage unique.
Ici, c'est un peu un laboratoire du no-plastique. À Milan, dans cette cascina, cette vieille ferme qui a été restaurée, il y a beaucoup d'initiatives anti-plastique. En partenariat avec les écoles, on fait de la sensibilisation, etc. Et là, il y a notre fontaine. Et sur le panneau, on explique que l'Italie est le deuxième pays au monde, après le Mexique, en termes d'utilisation de bouteilles en plastique. On en utilise 13 milliards chaque année.
Les petites bouteilles en plastique ne sont pas encore concernées par la directive. On ne parle pour l'instant que d'un objectif de collecte. En fait, ce sont les assiettes, les gobelets, les couverts qui sont les premiers visés, ceux-là même qui ont tant dépanné la vente à emporter pendant la pandémie. Mais la directive vient chatouiller l'Italie là où ça fait mal, car elle interdit aussi les bioplastiques à usage unique, créés à partir d'amidon de maïs par exemple, un secteur où justement le pays est en pointe. Rome n'a pas aimé et l'a fait savoir à Bruxelles.
Le problème, c'est que Novamont, qui est la principale entreprise de bioplastique européenne, se trouve en Italie. Donc l'Italie est en pointe dans ce secteur qui est énorme ici. Et on veut le sauver. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'interférences avec l'Union européenne. Mais moi, je ne soutiens pas ce secteur. Je trouve qu'on ne devrait pas utiliser le bioplastique dans notre quotidien, mais seulement pour des situations exceptionnelles.
Pour défendre son secteur et son entreprise, Mauro Apostolo, responsable commercial de la société Cosema, est venu présenter ses couverts en bioplastique jaune, fabriqués depuis fort longtemps.
On a commencé très vite à s'intéresser à la recherche sur les bioplastiques, dès le début des années 90. En 1998, on a créé nos premiers couverts en bioplastique. Et en 2002, on est devenu la première entreprise du monde à avoir la certification bioplastique.
Mais cette innovation est-elle encore vertueuse en 2021? La militante écologiste Donatella Pavane n'y croit pas vraiment, d'autant que certains pays produisent spécialement du maïs pour faire du bioplastique, un matériau qui n'est pas neutre pour l'environnement.
Le bioplastique, il est biodégradable dans l'air, sous le soleil et dans la terre, mais pas dans l'eau. Et ça, c'est un vrai problème, évidemment. Et depuis un certain temps, l'Europe demande à l'Italie de faire des efforts dans la recherche pour que ce bioplastique soit complètement dégradable.
Continue la recherche et le développement, c'est une évidence pour Mauro Apostolo, mais dire que le bioplastique n'est plus vertueux, l'entrepreneur ne veut pas l'entendre.
La décomposition du bioplastique en milieu marin, c'est un chantier, une recherche que l'on fait depuis longtemps. Parce que vous savez que le plastique dans le milieu marin se décompose en microparticules de plastique qui se retrouvent dans le plancton ou dans les poissons. Et ce sont des particules chimiques très polluantes. En revanche, les microparticules de bioplastique en milieu marin, ça reste des produits d'origine naturelle. C'est comme si le plancton ou les poissons mangeaient du pain ou des céréales, puisque ce sont des matières organiques à la base.
La querelle que l'on qualifiera d'expert est au cœur des discussions entre Rome et Bruxelles. Mais pour les militants écologistes, la vraie priorité est surtout d'abandonner l'usage unique, quelle que soit la matière. Donatella Pavane a fédéré plusieurs dizaines de restaurants à Milan qui vont proposer des contenants réutilisables qu'elle a conçus. Morena, cofondatrice du café Vegamore, a tout de suite adhéré à ce projet.
C'est sûr que pour l'instant, on est un peu une exception. Autour de nous, il y a plein de restaurants qui disent qu'ils s'engagent, mais en fait, ils sont encore très dépendants du plastique. Ils savent encore toutes leurs boissons avec une paille et ils disent « tant qu'il y a du plastique, on va s'en servir ». Mais nous, on n'a pas du tout la même démarche. On n'a pas un raisonnement économique, mais une conviction intime et un engagement pour ce type de projet.
La révolution est en marche et elle sera sans doute un peu violente dans un pays où les cafés servent encore systématiquement toutes les boissons avec une paille en plastique.
sable pour contrer les effets du changement climatique, des travaux titanesques, ça se passe aux Pays-Bas, où les autorités ont entrepris, ces dernières années, de remodeler les côtes pour les protéger du réchauffement. Et sur l'île de Texel, notamment, ce sont donc 7 millions de tonnes de sable, soit l'équivalent de 5 stades de foot, qui sont déversées en bordure de mer du Nord, pour le plus grand bonheur des goélands et des promeneurs. Les explications d'Antoine Moutot.
L'opération a commencé début mai sur la côte ouest de l'île. Depuis une plage de sable fin de Texel, on peut voir à quelques kilomètres au large un grand bateau. Il est en fait en train de draguer du sable au fond de la mer du Nord. Grâce à de gros tuyaux, d'impressionnantes quantités de sable sont ensuite déversées sur la plage au pied des dunes. Des bulldozers terminent le travail en les répartissant et les aplatissant soigneusement sur l'ensemble de la plage. Chaque chargement rend littéralement fou des centaines de goélands et mouettes alléchées par l'odeur des mollusques et autres aliments présents dans ce sable auxquels ils n'auraient jamais eu accès sans l'action de l'homme. Selon la presse locale, le spectacle attire également de nombreux badauds mais aussi des amoureux de la nature et amateurs de fossiles qui espèrent par exemple trouver sur la plage des ossements d'animaux préhistoriques restés enfouis sous la mer. Il y a 2 ans, sur le côté oriental de l'île, le long de la mer des Vaden, l'État néerlandais avait mené une opération encore plus impressionnante. Sur ce qui n'était alors qu'une simple digue de mer, il a ajouté des millions de mètres cubes de sable et des milliers de plantes, comme des zoyas. Et ce, afin de former de grandes dunes artificielles capables de mieux résister à la montée des eaux. Selon différentes études, les îles de la Frise sont particulièrement vulnérables face au changement climatique. L'île de Texel, notamment, se trouve en grande partie en dessous du niveau de la mer, au même titre que plus d'un quart des Pays-Bas. Dans ce contexte, le pays a lancé il y a quelques années un grand plan national de rehaussement et de fortification de sa zone côtière.
Let me know when you're ready. That's a good start. Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
On parle musique et Black Power aujourd'hui. Qu'est-ce que vous nous avez apporté ?
Des nouvelles du saxophoniste londonien Shabaka Hutchings, fer de lance de la nouvelle scène jazz anglaise qui multiplie les projets et collaborations sans beaucoup d'égard pour les étiquettes et les frontières. Le 4e album de son groupe Sons of Kemet en donne un nouvel exemple. Il s'intitule Black to the Future et Shabaka Hutchings le présente comme un poème sonore pour dépeindre le Black Power et invoquer le pouvoir, la commémoration et la guérison. Un disque très engagé donc, où le saxophoniste s'est entouré de nombreux invités, comme sur le morceau Hustle, où l'on peut entendre le rappeur Koi J Radical ainsi que la chanteuse Liane Lahavas au cœur. I've been doing mileage with my phone on silent. Hear no, see no, felt the violence. God got my blessings on autopilot. Why ain't no one tell me peace of mind was pricey? I could dance with the devil, but that's unlikely. Might go broke, but that's unlike me. I was born from the mud with the hustle inside me. Born from the mud with the hustle inside me. Feeding my soul. I go make nothing something. Show you my love. I don't fear nothing, nothing. But all it for sure. Now watch me go show you something. Feeding my soul. I go make nothing something. Born from the mud with the hustle inside me. Born from the mud with the hustle inside me. Born from the mud with the hustle inside me. Born from the mud with the hustle inside me. Born from the mud with the hustle inside me. Born from the mud with the hustle inside me. Born from the mud with the hustle inside me. That's my spirit, just not today. I got demons on my back and a lot on my plate. Someone tell them back, back, I got something to say. First they love you, then they hate you, then it's part of the game. They can look, I ain't nothing to play with. All my niggas off the block, all my niggas off slave ships. You can test my spirit, but don't test my patience. I only fear God that you can meet thy maker. I be feeding my soul. I go make nothing, something. Show you my love. I don't fear nothing, nothing. We're all here for sure. Now watch me go show you something. All here for sure. Watch me go home for now.
C'est avec Black to the Future du groupe Sons of Kemet que se termine Accent d'Europe. Merci à Françoise Grelot pour la réalisation. Vous pouvez bien sûr podcaster cette émission sur votre plateforme favorite. À bientôt. You don't need to pose and posture.